Dans l'immédiat, place au journal d'Haïti et des Amériques avec vous, Michael Ponge. Bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Il est 9h10 à Port-au-Prince. Et en pleine guerre des gangs dans le nord de la capitale haïtienne, l'extradition vers les États-Unis du leader des 400 Marozo hier, on va y revenir. On s'arrête aussi sur le problème de l'électricité qui fait défaut en Haïti, c'est peu de le dire. Retour aussi sur le projet de décision aux États-Unis de la Cour suprême qui annulerait le droit à l'avortement. Et puis le journal de la première, ce sera avec vous Alex Léveillé. On sera en Martinique et en Guadeloupe.
Oui, pour parler du 120e anniversaire de l'éruption de la montagne Pelée en Martinique et des dégâts des inondations en Guadeloupe.
Tout à l'heure, Alex, et bienvenue à tous.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Extrait d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la police nationale d'Haïti, mise en scène et musique de films d'action. Rien n'a été oublié pour communiquer autour de l'extradition de Germaine Joly, chef de file du puissant gang des 400 Marozo qui fait régner la terreur sur Port-au-Prince. Il a été extrait hier de sa prison pour être emmené aux États-Unis à bord d'un avion spécial, Amélie Baron.
Yon-Yon, de son vrai nom Germaine Joly, est à la tête des 400 Marozo, ce puissant gang qui depuis des années contrôle la large zone qui se situe entre la capitale et la frontière avec la République dominicaine. Le 22 avril, les États-Unis avaient émis un mandat international contre lui, avec notamment comme chef d'accusation, trafic d'armes de guerre et séquestration contre rançon de citoyens américains. Ce mardi, des agents du FBI sont venus pour le transférer vers Washington, car le criminel avait beau purger une peine à perpétuité depuis 2015 au pénitencier de Port-au-Prince, il n'en continuait pas moins à diriger son gang depuis sa cellule, et c'est ce gang qui, à l'automne dernier, avait enlevé un groupe de missionnaires et membres de leur famille. Ce groupe comptait 16 citoyens américains et un citoyen canadien. Il faut noter que ces 400 Marozo sèment actuellement la terreur au nord de Port-au-Prince en affrontant un autre gang. Jeudi dernier, la protection civile avait annoncé qu'au moins 20 personnes avaient été tuées. Un bilan très partiel qui ne fait que s'alourdir alors que les autorités publiques n'ont pas encore dit un mot sur la situation. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Et on va revenir sur le silence des autorités dans cette guerre des gangs. Mais d'abord, Arim Lipold, bonjour.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
D'abord, quelques précisions sur cette extradition de Germaine Joly dans la presse américaine.
Oui, selon le Miami Herald, l'aggravation des violences attribuées aux gangs des 400 Marozo a probablement accéléré le processus d'extradition de Germaine Joly, alias John John. La plupart de l'argent obtenu grâce aux pratiques d'enlèvement et d'extorsion de fonds est allé directement dans les poches du chef de gang, écrit le Miami Herald. L'argent lui a servi d'acheter des armes et de corrompre des policiers, des juges. Toujours d'après le Miami Herald, Michael, un autre objectif de l'extradition du chef des 400 Marozo était de provoquer une panique au sein des bandes criminelles en Haïti, car les autorités américaines, grâce à l'extradition de Germaine Joly, peuvent en savoir plus sur le fonctionnement et l'organisation des gangs en Haïti, explique le militant des droits de l'homme Pierre Espérance au journal Miami Herald.
À l'heure donc où les 400 Marozo et leur bande rivale emmenés par chiens méchants sèment la terreur au nord-est de Port-au-Prince, des violences qui sont à rime à la une de l'éditorial du Nouvelliste.
Oui, depuis le 24 avril, c'est toute la plaine du cul-de-sac qui s'embrase, écrit France Duval. Des rumeurs apportent les plus graves atrocités. Des photos mexicaines circulent, des récits insoutenables se partagent, poursuit le rédacteur en chef, avant de souligner que ni la presse, ni les organismes de défense des droits humains, ni la protection civile qui avait établi un premier bilan, ni la police, personne ne peut faire le décompte exact des horreurs. Selon le Nouvelliste, la peur a remplacé la paix à la sortie nord de la capitale. Et le journal de cité, un responsable d'un syndicat de policiers expliquant que la police, lors des affrontements avec les gangs, réagit avec ses faibles moyens. Nos policiers sont envoyés en mission avec leurs ongles, dénonce encore ce policier. D'après le Nouvelliste, une dizaine d'enlèvements ont été répertoriés dans la région métropolitaine rien qu'en début de ce mois de mai.
Le Nouvelliste qui dénonce la politique de l'autruche des autorités haïtiennes face à cette situation. Des gangs qui font main basse sur les stocks de carburant aussi. Hier mardi, 6 camions citernes ont été détournés par les bandits alors que le pays déjà fait face à une pénurie pénurie d'essence. Et pas d'essence, en Haïti, c'est synonyme souvent d'absence d'électricité, la majorité du courant provenant de génératrices. Car si l'EDH, l'organisme d'État chargé d'alimenter en énergie, les Haïtiens avaient promis le mois dernier 10 heures de courant par jour. Et pour tous, on en est aujourd'hui très très loin. Peu à peu, le blackout est devenu un problème de plus avec lequel les Haïtiens ont appris à composer. C'est le dossier de Witsa Payen.
Avoir du courant électrique 24 heures sur 24 n'a jamais fait partie du quotidien de beaucoup d'Haïtiens. Mais depuis quelque temps, la situation a empiré. Les Haïtiens sont dans le noir. Et cela touche même les quartiers les plus aisés du pays, comme la commune de Pétionville à Port-au-Prince, où vit Barbara Philippe avec son fils de 8 ans.
Pour nous autres à Pétionville, nous avons pratiquement presque une semaine.
Dans les quartiers de Pétionville, on vient de passer plus d'une semaine sans électricité. Le courant électrique n'est disponible que pendant 2 à 3 heures par jour. Si tu en as pendant 4 heures dans la journée, tu fais partie des chanceux. Le plus souvent, on reçoit de l'électricité très tard, à 23 heures ou même à minuit. À ce moment-là, les enfants dorment déjà, donc on est obligé de leur faire faire les devoirs dès qu'ils rentrent de l'école, entre 14 heures et 18 heures, si on veut profiter de la lumière du jour. Autrement, il faut utiliser la lumière des bougies ou des portables. D'autres utilisent un système de panneaux solaires.
Un rapport publié en 2021 par les 5 agences dépositaires de l'ODD7 constate que seuls 45% de la population haïtienne a accès au courant électrique, un chiffre qui pourrait être revu à la baisse du fait du rationnement instauré par la compagnie électrique L'électricité d'Haïti à Port-au-Prince, mais aussi dans d'autres villes du pays. Cette commerçante vit à 12 km de la capitale haïtienne, à Marimbé, dans la commune de Kouadebouké. Son quartier n'a pas eu une seule heure d'électricité depuis début janvier.
Je m'appelle Natacha, je tiens un petit commerce de boissons gazeuses, j'utilise une glacière pour les vendre. Cette pénurie sévère d'électricité m'oblige à acheter constamment des glaçons pour rafraîchir les boissons. Le prix des glaçons a beaucoup augmenté sur le marché local. Aujourd'hui, je les paye 250 gourdes, alors qu'avant c'était à 150 gourdes. Du coup, j'ai été obligée d'augmenter le prix des boissons.
Cette pénurie qui touche aussi les zones de province n'est pas sans conséquences. Le docteur Boutros Galipierre est médecin et préside le conseil d'administration de la brigade d'intervention médicale. Il travaille aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine de Jérémy, chef-lieu du département de la Grand'Anse, sur la péninsule sud d'Haïti.
Toute la ville de Jérémy est dans le noir. Il y a vraiment un grave problème d'électricité. Donc c'est pareil pour l'hôpital Saint-Antoine de Jérémy, qui est un hôpital de référence pour le département. Donc la situation est très très délicate au moment où nous parlons. Au service des urgences, on a toujours des patients qui nécessitent d'être réanimés. On a toujours besoin de l'électricité pour fonctionner. C'est vraiment un calvaire. Depuis quelque temps, on n'arrive pas vraiment à aider certains patients. Et il y a d'autres patients qui nécessitent un soin intensif, qui doivent être branchés. Mais si on n'a pas d'électricité, on n'arrive pas à le faire. Donc, par jour, on perd au moins un patient.
Sur les 41 circuits électriques que compte le pays, seuls 8 peuvent être desservis en permanence, selon le directeur général de l'EDH, qui dit ne disposer que de 41 mégawatts. Les centrales thermiques qui desservent la ville de Port-au-Prince et ses environs sont à l'arrêt. La centrale hydroélectrique de Péligre aurait besoin d'une maintenance, mais l'argent manque. Jean-Hérol Moroz évoque aussi d'autres difficultés comme les faibles recettes générées par les consommateurs, l'accès illégal au réseau électrique et surtout la décision du gouvernement de ne plus accorder de subventions à cette entreprise de services publics qui constitue depuis des années un lourd fardeau pour le budget national.
Oui, ça payant, et c'est ainsi que l'on referme cette longue page haïtienne. À Port-au-Prince, comme à New York, il est 9h18. New York ici, mais aussi à Boston, Los Angeles, Washington, où on a manifesté hier.
Même si je m'y attendais, ça fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. C'est difficile d'accepter que mon pays est en train de nous retirer des droits au lieu de les étendre.
Manifestation contre ce qui pourrait être un recul de 50 ans. À en croire un document interne révélé par le site Politico, la Cour suprême des États-Unis serait sur le point de revenir sur la législation de 73, l'arrêt Roe versus Wade, qui garantit le droit à l'avortement au niveau fédéral. Devant cette Cour suprême, hier, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, très émue et très remontée.
C'est ce à quoi les républicains ont œuvré jusqu'à ce jour. Depuis des décennies, complotant, cultivant cela pour avoir une majorité à la Cour suprême, à même d'accomplir ce qu'une majorité d'Américains refuse. 69% de la population à travers ce pays, dans les États démocrates et républicains, les personnes âgées, les jeunes veulent le maintien de Roe versus Wade. C'est ce que nous devons faire, c'est notre droit. On a assez entendu les extrémistes.
Voilà l'élu Elizabeth Warren. Deux visions sur le sujet, deux Amériques qui se font face à rime. C'est toujours très commenté dans la presse américaine ce matin.
Oui, exactement. Le projet de décision rédigé par le juge conservateur Samuel Alito montre à quel point les républicains tentent de faire avancer leur agenda politique, écrit par exemple le Miami Herald ce matin et selon le Washington Post. La perspective de l'abrogation de l'arrêt Roe versus Wade aura pour effet de mobiliser les défenseurs de l'IVG à 6 mois des élections de mi-mandat, une mobilisation qui affectera la campagne pour les législatives tout en renforçant la division déjà importante de la société américaine, estime le journal. Jusqu'à présent, le scrutin de novembre prochain se présentait, Michael, comme un référendum sur les deux premières années de Joe Biden à la Maison-Blanche. Mais à présent, poursuit le Washington Post, la campagne pourrait se transformer en une bataille entre deux choix de société.
Avec comme enjeu central, Arim, la dignité humaine.
Oui, c'est ce que souligne le journal canadien Le Devoir. Les restrictions du droit à l'avortement touchent surtout les femmes qui n'ont pas les moyens de voyager et de se faire avorter dans un autre État. Parmi ces femmes, celles qui appartiennent aux minorités noires, aux latinos, qui n'ont pas d'assurance ou de statut légal, ce qui ouvre la porte au recours à des méthodes d'avortement dangereuses ou mal encadrées, écrit Le Devoir, qui précise que plusieurs des États pressés d'interdire l'avortement sont aussi ceux où le filet social pour les femmes et les enfants est le plus médiocre et où les taux de pauvreté infantile sont élevés. Cherchez l'erreur, conclut le journal.
Et les Texanes qui ne peuvent plus avorter après 6 semaines de grossesse, justement, elles s'étaient reportées sur l'Oklahoma voisin. Mais voilà que le gouverneur républicain de l'Oklahoma, hier, a signé une loi interdisant l'IVG, là aussi, après 6 semaines de grossesse. C'est vieux comme le monde, mais à l'heure où l'argent est roi, on l'a un peu oublié, le troc, pratique ancestrale remise à l'honneur chaque année, au mois d'avril, en Équateur, par le village andin de Pimparimpo, qui organise une foire au troc. Éric Sanson en revient, son reportage.
Protégée du soleil et de la pluie, sous une tente installée par la mairie, Valeria Carlos Ama est prête à troquer.
Je suis venue avec des mandarines, des tomates, des pêches et je cherche de la papaye, de la banane plantain, des fèves, des petits pois et de la pomme de terre. On échange dans ces bols en plastique, sans peser, sans argent mais avec de la bonne volonté.
Pendant la foire du troc, l'argent est interdit. Oublier votre carte de crédit n'est donc pas un problème, mais si vous voulez participer au cambeo, à l'échange comme on dit ici, mieux vaut apporter son lavacara, une sorte de petit saladier plastifié d'environ 25 cm de diamètre, selon Edison Cabrera, qui s'occupe des relations publiques de la mairie.
La mesure que l'on utilise, c'est ce bol en plastique. Tu le remplis par exemple d'un fruit, le zambo, en échange du même bol rempli de piment. Tu peux toujours marchander et demander un peu plus. Si l'autre personne ne veut pas, tu te retires et tu cherches quelqu'un d'autre.
Et les volontaires ne manquent pas, tant Pimampiro est renommé pour sa production agricole qui s'étage des plaines jusqu'au Paramo andin. Selon le maire de la ville, Armando Chavez, le troc ici est une coutume ancestrale.
Les civilisations précolombiennes utilisaient des monnaies à base de cuir ou de graines de cacao, ou alors la coquille de l'Espondylus sur la côte et au sud du pays. Pimampiro, à l'époque, produisait de la coca, l'échangeait contre du maïs, du blé, des pommes de terre. La coca servait pour le troc.
Et cette pratique s'est maintenue au fil du temps, au point d'être reconnue en Équateur comme à l'étranger.
Grâce à l'aide d'une université de la ville d'Ibarra, le troc a été déclaré patrimoine culturel immatériel en 2017. On le célèbre le vendredi, avant la Semaine Sainte, lorsque la population cherche à se procurer des ingrédients de la soupe connue comme la fanesca.
Préparée spécialement pour la Semaine Sainte, cette soupe implique la cuisson de nombreux ingrédients et notamment de 12 grains différents en l'honneur des 12 apôtres. Pour les agriculteurs et la population, la foire du troc est l'occasion de faire son marché sans avoir à grever ses finances, et d'autant plus facilement que le troc ici fait partie de la vie de tous les jours, selon le maire de Pimampiro, Armando Chavez.
À Pimampiro, le troc est permanent. Tous les vendredis, il y a un marché solidaire qui se fait normalement avec de l'argent. Mais à la fin du marché, les commerçants échangent les produits qui leur restent contre ceux qui leur manquent.
Un réflexe qui a permis à la population de supporter la pandémie et le confinement beaucoup plus facilement. Edison Cabrera.
Tu troquais tes pommes de terre avec un voisin qui avait des tomates, des petits pois ou des fèves. Tu pouvais même échanger tes produits agricoles dans les épiceries contre du riz ou du sucre. Donc la pandémie a été plus facile à supporter, car les gens avaient de quoi manger et c'était le principal.
La foire du troc d'ailleurs en a tiré quelques enseignements. On peut aujourd'hui y échanger beaucoup plus que des fruits et légumes. Mercedes Hurtado par exemple est venue avec des vêtements.
Pour un bol rempli de tomates ou d'avocats, je leur donne 3 paires de chaussettes.
Le troc ici fait tellement partie de la vie quotidienne qu'il touche même des services médicaux. Soigner une carie contre des fruits et légumes est courant dans ce village andin. Edison Cabrera.
Le troc nous apporte cette relation sociale, ce maintien de nos valeurs, mais aussi des échanges culturels et d'amitié entre les afro-équatoriens, les métis et les indigènes.
Sans oublier des instants de fraternité, selon Maria Salazar.
Cela représente un moment de fraternité. C'est une belle coutume. Tu me donnes, je te donne. Et on n'a pas besoin d'argent.
Eric Sanson, Pimampiro, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
C'est avec vous Alex Léveillé, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Et à la une toujours les inondations en Guadeloupe avec encore de nombreux sinistrés.
Et oui, et plus précisément dans la commune du Gosier, les boutiques de la zone commerciale de Bas-du-Fort avaient complètement disparu sous les eaux. Peggy Robert de Guadeloupe la première.
3 jours après les inondations, ça empeste l'eau croupie dans la boutique de Catherine. Short en jean, basket, jambes pleines de traces de boue, la gérante de Nuance n'en finit plus de faire le tri dans sa boutique de décoration. Elle est installée là, dans le centre commercial de Bas-du-Fort à Gosier, depuis une trentaine d'années, depuis le cyclone Hugo, et elle n'avait jamais vu ça. 1,25 m d'eau, les dégâts sont énormes. 2 boutiques plus loin, 3 femmes étendent du linge de maison sur des séchoirs ou sur des caddies empruntés à l'hypermarché voisin. La gérante de la boutique Nul Ailleurs rince depuis 2 jours des vêtements et des serviettes de bain de bébé dans une bassine. Dans la zone, la station essence Total Energy de La Brousse, située juste de l'autre côté de la rocade, a subi elle aussi de gros dégâts. 90% des marchandises de la boutique sont perdues. Les pompes ne devraient pas être opérationnelles avant une quinzaine de jours. Quant à la boutique, c'est tout le mobilier estampillé Total Energy qu'il faut remplacer.
J-4 avant la commémoration du 120e anniversaire de l'éruption de la montagne Pelée en Martinique. Certains habitants de la commune de Saint-Pierre ont des ancêtres qui ont fait partie des rescapés de cette catastrophe. Christine Cupit de Martinique. La première.
21 000 personnes qui ont quitté Saint-Pierre juste avant l'éruption et qui ont été disséminées un petit peu partout en Martinique.
Mathurin Cadenet et Jackie Espartero, deux natifs de Saint-Pierre qui partagent la même passion pour l'histoire de leur commune natale et de l'éruption de 1902. Pour Mathurin Cadenet, c'est aussi une histoire personnelle.
C'est toujours 29-30 le mur ?
C'est mon père. Il était à Saint-Pierre le matin.
RFI.
Ils sont descendus chercher sa mère. Mais pendant qu'il était là,
allô.
Il a vu des gens qui sortaient des navires qui étaient ébouillantés.
Le père de Mathurin Cadenet avait 16 ans lors de l'éruption de 1902. Il fait partie des survivants. Alors qu'il n'est qu'un adolescent, il est contraint de quitter Saint-Pierre avec ses proches.
Il est parti à Fort-de-France avec sa tante et sa maman. Il est parti en Guyane. Il a ses frères qui sont partis au Panama, à Porto Rico.
Plusieurs milliers de personnes ont fui Saint-Pierre avant la nuée ardente.
C'est là où différents quartiers ont pris naissance. Je vais parler de, par exemple, Chelcher, où il y a des habitants de Saint-Pierre et des environs qui se sont retrouvés dans le quartier de la Démarche, Fontlaillé. À Rivière-Pilote, il y a eu 2 quartiers, des Marinières et les Concordes. Et puis Fort-de-France, il y a eu l'Alma, Colson, Balata, Tivoli, Redoute, Terre-Saint-Ville, l'Ermitage. Et puis, bien sûr, il y a d'autres habitants qui ont quitté la Martinique, qui sont allés à Sainte-Lucie, en Guadeloupe, à Trinidad, en Guyane, notamment à Rémy-Montjoly, au Venezuela et puis au Panama.
Un sujet signé Christine Cupit de Martinique la Première. Et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Merci beaucoup Alex Léveillé, à vous et aux équipes de la Première. Merci à Hélène Avril qui était à la réalisation de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Très bonne journée à tous.